Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Oui, je m'appelle Monsieur Chabadou pour les intimes. Il y a quelques années, j'ai fait un album pour les enfants de l'école du dimanche. Ça a bien marché, c'est très très bien marché. C'est un album qui est plein de joie, qui est plein de vie. Puis j'ai quand même fait ça en l'an, on était, je crois, en 2001. Fait que ça fait quand même 17 proche 18 ans que c'est fait. Puis même les chants ont été pour la majorité écrite dans les années 98-99 pour l'école du dimanche. Et ça marche encore. J'en vends encore. Et puis, je chante encore du Chabadou. C'est le fun. Mais je chante aussi d'autres choses. Ça va me faire plaisir de vous partager un chant ou deux, si vous voulez, plus tard ou quand vous voulez. Quand vous dites, OK, on est allé t'entendre parler. OK, alors, c'est ça. La dernière fois que j'étais ici, on était à Victo, on avait eu une belle réunion après concernant un nouveau bâtiment, puis c'était plein d'excitation. Jean-Sébastien avait été très, très clair, il avait demandé l'opinion de tout le monde. Je trouvais que c'était une belle démarche, et puis c'était un beau résultat aussi. C'est juste dommage qu'on ne soit pas plus, mais ça, c'est des imprévus, c'est des cours de route, c'est comme ça. J'aimerais qu'on s'édifie ce matin avec un passage biblique dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, verset 30. Je mets mes lunettes. 8:30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » On va arrêter là. C'est un passage que j'aime beaucoup, que tout le monde connaît. Mais le contexte autour de ça est fort intéressant. Et il y a deux trucs que j'aimerais faire ressortir de ce passage-là. Il y en a sûrement plein d'autres, parce que c'est comme ça les Écritures, c'est plein de trésors, pas découverts encore. Et puis, au fur et à mesure qu'on grandit puis qu'on s'expose, on découvre des affaires, puis on est renversé. Mais il y a deux trucs que j'aimerais faire ressortir de ce passage-là. Premièrement, il y a une progression qui est observable dans ce passage-là. Okay? Il y a des Juifs qui ont cru. Puis là, le Seigneur leur dit une chose, il leur dit « Demeurez dans ma parole et vous serez mes disciples, vous êtes vraiment mes disciples. » Puis la troisième chose, c'est « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Donc, on semble observer une forme de progression là-dedans. La deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est le mot « affranchi » ou « liberté ». Certaines traductions vont dire vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Okay? Dans certaines versions, c'est vous affranchira et dans d'autres, c'est vous rendra libre. Mais c'est équivalent, hein? Ça veut dire la même chose. Et pour moi, le concept de liberté, je vais commencer par parler de cette optique-là sur le mot liberté. Pour moi, liberté, j'ai tombé récemment sur un petit fascicule, le salut en Jésus-Christ, la liberté de l'homme. Et pour moi, liberté, c'est un concept qui était mal compris et difficilement associé au message de Jésus-Christ. Puis je vous explique pourquoi. Liberté, c'est un mot qui est associé beaucoup aux mouvements humains, aux révolutions. Tu sais, liberté, la Révolution française, liberté, fraternité, égalité. La liberté, c'est toujours le mot d'ordre de toute révolution. Tu sais, on veut se débarrasser, nous autres, on veut se débarrasser des Anglais, Québec libre, liberté. C'est toujours un concept qui m'apparaît comme quelque chose de beaucoup plus humain que divin. Je vous lis un petit passage, Paul Valéry, un auteur français, écrit sur la liberté. Liberté, c'est un de ces détestables mots qui ont plus de valeur que de sens, qui chantent plus qu'ils ne parlent, qui demandent plus qu'ils ne répondent, de ces mots qui ont fait tous les métiers et desquels la mémoire est barbouillée de théologie, de métaphysique, de morale, de politique, mots très bons pour la controverse, la dialectique, l'éloquence, aussi propres aux analyses illusoires et aux subtilités infinies qu'aux fins de phrases qui déchaînent des tonnerres. Fait que voyez-vous, ce mot-là est facilement associé à des discours humains qui veulent, on va se débarrasser de telle situation politique, on va gagner telle chose, on va conquérir et nous obtiendrons liberté, enfin notre peuple. Donc, c'est, encore une fois, je dis, c'est pour moi, c'était ça que ça voulait dire, liberté. Beaucoup plus un mouvement humain, beaucoup plus un mot qui convient à notre situation d'homme sans Dieu, clairement. Et beaucoup plus si on considère le mot liberté dans la situation de la chute dans le jardin d'Éden. Okay? Adam et Ève sont dans le jardin et puis Dieu leur dit, si on tournait peut-être Genèse 3, je vais regarder ma page, Genèse 3, le contexte c'est que, 1, 2, 3, OK, le contexte, c'est ils sont dans une belle situation, Adam et Ève. Ils sont très, très heureux, très confortables. Et le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » On arrête là. Le deal apparaît intéressant. Tout d'un coup, on se rend compte d'une forme de contrainte, c'est que Dieu dirige tout et que nous, on n'a pas d'objectivité, on n'a pas de façon d'évaluer les choses, de décider pour nous-mêmes. Donc, en quelque sorte, le deal, c'était en connaissant, en prenant de l'arbre, de fruits de l'arbre de connaissance du bien et du mal, on devenait comme Dieu, avec la capacité d'évaluer le bien et le mal, de faire nos propres choix. Donc, une forme de liberté très séduisante. OK? Donc, là, j'en rajoute, avec le contexte de la chute dans le jardin d'Éden, la liberté, c'est la tentation du serpent. Il nous offre un deal, la liberté, l'autonomie, et puis c'est ce qui habite l'être humain, c'est ce désir de choisir pour lui-même, puis d'être autonome, sans Dieu, évidemment. C'est ça, c'est la grande tentation, c'est la malheureuse condition de l'être humain, c'est qu'on est autonome et on désire être autonome sans Dieu. Donc, encore une fois, je rajoute, liberté, c'est beaucoup plus associé à un mouvement humain. Puis quand le Seigneur nous dit, je vais vous affranchir, je vais vous donner la liberté, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire par là. Il y a d'autres passages qui parlent de liberté. Là où est l'esprit, là est la liberté. Et de quelle liberté qu'on parle exactement? Parce que la liberté, c'est l'autonomie. L'autonomie, c'est de vivre sans Dieu, puis c'est la condition de l'homme naturel, c'est la condition d'un homme séparé de Dieu, dans la division et dans la mort. Ça fait que division devient difficile à comprendre. Mais la proposition du serpent n'était pas si bonne que ça. Le serpent a proposé à Ève de prendre du fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal, et elle deviendrait comme un dieu, comme Dieu, capable de évaluer, choisir et comprendre le bien et le mal. Mais le dé, il n'est pas bon. Parce que ça donne juste la possibilité de connaître le bien et le mal. Ça ne donne pas l'essence divine d'être bon. Est-ce qu'on peut être bon sans Dieu? Est-ce qu'on peut être bon sans Dieu? Je pose la question. Quand on se met à parler du bien et du mal, tout le monde est mêlé. Nous autres, avec les chrétiens, on est vraiment mêlés avec le concept. Oui, mais le bien, c'est le bien. Puis le mal, c'est le mal. Mais pourtant, quelqu'un fait le bien, mais ça demeure le bien. C'est une question très difficile à trancher puis à mettre de l'ordre dedans. Le bien et le mal, c'est compliqué. C'est dans nous, c'est l'héritage du jardin d'Éden. C'est notre façon d'évaluer les choses. C'est l'héritage direct de la chute. Donc, le bien, c'est quelque chose qu'on peut connaître, mais que malheureusement, sans Dieu, on ne peut pas faire. Parce que la Bible nous dit quoi? Seul Dieu est... C'est clair, ça? C'est simple. Seul Dieu est bon. Le jeune homme riche qui approche le Seigneur, puis il dit, « Oh, bon maître! » Le Seigneur dit, « Pourquoi tu m'appelles bon maître? » Seul Dieu est bon. Mais c'est intéressant comme information. On se souvient de ça. Okay? On est pris avec un concept, nous les humains, bien et le mal. On est capable de reconnaître le bien et le mal. Malheureusement, on n'a pas l'essence de Dieu. Quand le Seigneur dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ce sont des particularités qui appartiennent à Dieu. Il aurait pu rajouter « Je suis le chemin, la vérité et la vie » et « Je suis le seul qui est bon ». Il aurait pu dire aussi. Ce sont des attributs qui appartiennent à Dieu et non à l'homme. Quand l'homme est devenu autonome dans le jardin d'Éden, il n'avait pas les attributs de Dieu. Il est parti avec un mauvais deal. C'est comme quand tu vas au marché aux puces, supposons, puis on te vend une affaire extraordinaire, une balayeuse, on va dire, elle fait tout cet aspirateur-là. Tu sais. Et puis là, tu t'en vas, puis tu es sûr qu'avec cette affaire-là, tu vas être capable de tout régler. Les maladies, les infections, tu vas déboucher les toilettes, tu vas laver tes vitres. En fait, tu fais tout avec cet aspirateur-là. Tu sais. Ouais. Puis finalement, tu te rends compte, à force d'essayer, que ça ne fait pas tout. Puis c'est pas vrai que ça fait tout. Fait que le deal dans le jardin d'Éden, il est un peu pareil. Tu t'en vas avec un paquet en dessous du bras en pensant que tu es comme Dieu, puis que tu es Dieu maintenant. Mais que le malheur fait que tu n'es pas comme Dieu, parce qu'il te manque encore des caractéristiques. Puis ces caractéristiques-là, c'est la vie, c'est la bonté, c'est sans lesquelles l'humain meurt. C'est ça le drame de la chute, c'est qu'on est parti avec une impression d'autonomie, mais qu'en réalité, on ressemblerait, admettons, à une feuille qui est coupée d'un arbre, une branche qui est coupée d'un arbre, puis sur cette branche-là, il y a des belles feuilles vertes, puis il y a des fleurs, puis la branche est coupée, puis tu t'en vas avec ça. Puis tu dis, regarde, est autonome, il y a des feuilles vertes qui regorgent de vie, il y a des fleurs, puis il va y avoir des fruits, puis tu sais. Mais le temps fait qu'on le sait, hein? Le temps fait qu'elle se flétrit parce qu'elle n'est pas attachée. C'est ça le deal. Le mauvais deal, c'est qu'on est séparés, on a cette illusion d'être autonome et libre. C'est comme quelqu'un, admettons, qui est dans un transatlantique, en plein milieu de l'océan, puis qui trouve que le bateau est contraignant pour sa liberté. sortie, il y a une clôture tout le tour pour ne pas tomber à l'eau, puis il trouve ça contraignant. Il a l'impression de ne pas posséder sa pleine liberté. Fait qu'il décide de plonger à l'eau puis de se rendre à nage. Parce que c'est une contrainte, le bateau. Ça l'empêche de nager. C'est un peu c'est une image grossière, là. Mais ça donne un peu le portrait de ce que c'est que l'illusion de l'autonomie, cet héritage du Jardin d'Éden. Puis quand on parle de liberté, on dit, ben ça me fait penser à la volonté de l'homme naturel de vouloir être libre de Dieu. De vouloir être, tu sais. Mais le Seigneur, plus loin, dans Jean 8, nous parle de ce que c'est exactement que la liberté. Il dit, chaque personne, je vais le lire. Hein? OK. Alors, il lui répondit, nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Le Seigneur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Bon, bien, j'arrête là. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est notre condition à nous, les humains, irrégénérés. Avant la régénération, avant le baptême du Saint-Esprit, la condition de l'homme, c'est qu'on est esclave d'une façon de penser, d'une façon d'agir, d'une façon d'évaluer. Puis esclave, comme je disais tantôt, on connaît le bien et le mal, mais on n'est pas capable de faire le bien. On peut faire des gestes qui ressemblent, qui sont bien, mais on ne peut pas ne pas, d'un autre côté, pécher. La condition de l'homme est triste, on ne peut pas ne pas pécher. Donc le Seigneur nous dit, vous êtes esclaves d'un autre modèle. Et quand il nous parle de liberté, il nous parle de nous détacher de tout ce système. C'est la liberté. Puis pourtant, je vous défierais de ne pas avoir un soupçon dans votre tête quand je vous parle la Bible nous parle de liberté. Un soupçon que Jésus, c'est contraignant un peu. Parce que tu ne t'appartiens plus, tu n'as plus la liberté de faire ce que tu veux. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'étais jeune, chrétien, puis probablement toute ma vie, ça va être comme ça, j'ai toujours une hésitation avant de me sanctifier pleinement, de peur que je vais perdre les libertés. Puis le Seigneur, pourtant, nous appelle à la liberté. Fait qu'essayez de connecter ça. Fait que si jamais vous vous surprenez à penser comme ça, c'est l'héritage du Jardin d'Éden, cette fausse illusion de liberté. On est esclave. En réalité, c'est clair, le Seigneur nous dit, on est esclave. C'est pour la liberté. Voilà. J'aimerais parler du deuxième point qui ressortait. Je vous parlais tantôt que le passage, Jean 8, 30, nous montre aussi, nous propose ici comme une espèce de forme de progression. Et ça se rattache exactement à notre discussion actuelle, okay, sur la liberté. On semble observer dans ce passage-là une progression. Je reviens à ce qu'on disait tantôt, comme je parlais au début. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ça commence par des gens qui ont cru. Bon, ils croient. Ensuite, le Seigneur leur dit, « Vous demeurez dans ma parole, vous allez mes disciples. » Puis ensuite, il semble y avoir comme une espèce de... Ça m'édifie de penser à cette façon de voir la chose. Peut-être des théologiens vont dire, « Oh non, tu ne peux pas parler du verset de cette façon-là, parce que c'est comme ci, puis c'est comme ça, puis à cause de ci, puis à cause de ça. » Bien, moi, ça m'édifie. Peut-être que je ne suis pas exactement sur la coche théologiquement, Mais c'est édifiant de constater dans ce passage-là qu'il peut y avoir un état de croyant sans être nécessairement d'une efficacité énorme pour l'Évangile. Donc, si tu t'exposes à la parole, tu es un disciple. OK? Puis ensuite, viens, tu vas connaître la vérité, puis la vérité va t'affranchir. C'est intéressant. T'sais. Le salut, premièrement. Les Écritures ne nous demandent pas, d'après ce que j'ai vu dans les Écritures, les conditions pour être sauvé ne sont pas très, très sévères. On ne demande pas, on n'exige pas beaucoup à l'être humain, à l'homme, pour être sauvé. On lui demande quoi? De quoi? Croire. OK. Fait que on part avec des gens qui ont cru. Puis ensuite, le Seigneur, il y a une discussion avec eux autres. Il est très, très sévère. Tu sais, on dirait que la chicane pogne, là. Puis ça n'a plus l'air cool, là. Il est rendu qu'il est quasiment en train de leur dire que leur père, c'est Satan, puis c'est le diable. Ça part mal une vie chrétienne. Là, hein? Il commence par croire, et puis tout d'un coup, il y a un conflit qui pogne parce que les autres, ils ont un argument. Ils disent on n'a jamais été libre. Mais ça, c'est une façon de regarder la chose. Puis je regardais dans un commentaire biblique, et là, on dit bon, mais il n'était pas sauvé. Il n'était pas sauvé parce qu'il argumentait de cette manière-là. Ça démontre clairement qu'il n'avait rien compris au message et à l'œuvre de Jésus-Christ. Il avait juste cru d'une manière culturelle. En tout cas, blablabla. Mais moi, j'aime mieux croire que la condition est facile à remplir, c'est que tu crois. Puis, il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas quand tu te convertis. Quand tu te convertis, tu as encore bien des croûtes à manger et tu as encore beaucoup de choses à comprendre. Ensuite, il arrive des situations dans ta vie où tu commences à découvrir des choses, puis tu commences à être d'une efficacité meilleure. À un moment donné, j'étais dans un cours, on étudiait Luther. Et vous savez, Luther, le théologien allemand là, de la Réforme, ça faisait longtemps qu'il était impliqué dans l'enseignement biblique. Il enseignait le catéchisme, il enseignait dans les couvents. Ça faisait des années qu'il était très actif et très impliqué. Et puis, il connaissait les Écritures. Il était certainement très connaissant dans la question. Puis, un bon jour, il y a un flash qui vient, qui le renverse complètement. Il tombe en bas de sa chaise. Il lit le passage « Le juste vivra par la foi ». À partir de ce jour-là, Luther n'est plus le même. Il est un nouvel homme. Et beaucoup disent qu'il s'est converti à ce moment-là. C'est toujours bien aventureux de déterminer le moment du salut d'une personne. C'est bien aventureux aussi de dire qui est sauvé et qui ne l'est pas. On se prononce souvent sur cette question-là. Nous autres, les chrétiens, on aime ça, dire... Lui, il n'est pas sauvé. Il est venu à l'église, il est sauvé. Puis, il n'était pas sauvé. Pasteur, il est sauvé. Puis, moi, je prie pour un tel parce qu'il n'est pas sauvé. C'est une question qui regarde Dieu. Le salut des gens, c'est... Bon. Ça fait qu'anyway, Luther, moi, je ne suis pas sûr qu'il n'était pas sauvé avant. Je ne sais pas. Mais c'est mon impression, tu sais. Et comme je vous dis, c'est bien hasardeux de commencer à se prononcer sur la question. On ne sait pas. Mais une chose est certaine, je peux te dire une chose, c'est qu'il a compris de quoi dans les Écritures, puis ça a bouleversé sa vie. Puis ça me fait penser à ce passage-là. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. À mon avis, Luther a été affranchi de quelque chose d'énorme dans sa vie. Puis d'à partir de cette lumière des Écritures, sa vie n'a plus jamais été la même. Son comportement, sa façon de juger les choses n'a plus jamais été la même. Quand on demande à des gens de venir raconter leur témoignage, on aimerait entendre d'eux le récit de leur conversion, le moment où ils se sont convertis. Moi, j'ai toujours eu de la misère à raconter mon témoignage parce que, premièrement, ma conversion n'était pas très spectaculaire au départ. Je me suis comme converti comme une sorte de convenance, si vous voulez, tu sais. C'est Puis plus que ça, si j'examine comme fou, quand j'étais jeune, je croyais. J'étais un catholique, puis j'y croyais, puis je priais. Puis je me rappelle que des journées d'été que j'étais seul, il y avait un couvent de sœurs à côté, puis j'allais me promener dans le parc chez les sœurs, puis je regardais, tu sais, il y avait la croix qui était là, puis là, je considérais la crucifixion, puis c'était pas étranger pour moi, la foi. T'sais. Puis ensuite vient l'adolescence, où tu commences à fréquenter des gens qui ont toutes sortes d'opinions révolutionnaires. « Dieu n'existe pas, ben non... » on vient de la tombe, je sais pas, enfin, n'importe quoi. Pas besoin de les énumérer. Mais finalement, tu adhères à ces opinions-là. Puis ton opinion change, puis tu agis comme quelqu'un qui est complètement étranger à la foi, à Dieu, puis aux promesses, aux Écritures. Puis un jour, tu entends le message, puis tu changes ton opinion, puis tu adhères au message, tu sais. Fait que là, moi, j'ai considéré que c'était ça, ma conversion, mais qui sait, t'sais? Bref, en tout cas, quand on me demandait mon témoignage, j'avais pas grand-chose à raconter, puisque c'est comme si j'étais revenu à ce que je croyais avant, t'sais. Mais ensuite, l'aventure a commencé. Fait que le récit de ma conversion, je dirais plutôt que c'est pas le récit de ma conversion, c'est le récit de mes conversions. L'aventure a commencé, j'ai commencé à marcher dans l'Église, puis à m'exposer. Puis, je me rappelle, écoutez, au début, en 1980, je jouais dans un band de musique, et puis Jeff, il venait chez nous, pasteur Jeff, il venait chez nous, puis il me parlait du Seigneur, il me parlait de l'Évangile, puis il me parlait de l'importance de recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur, blablabla. Je le trouvais bien fatigant. quand je le voyais arriver par la fin, j'étais là, oh, non, pas lui encore, il va nous manger notre temps. Et un jour, voilà, j'ai dit, Jeff, t'as raison. Ben, Jean, on va prier ensemble. On a prié. T'sais. Pas grand-chose s'est passé. T'sais. Et j'étais dans cette bande-là qui s'appelait les Aigres Roses. C'est un beau nom de band, ça. Et puis, j'ai abandonné le band. Puis Jeff, il me dit, je m'en vais en septembre en France, à Nîmes, chez M. Howard, qui était un enseignant de la Bible, pour notre formation. Puis, pourquoi tu ne viendrais pas avec moi? Les billets sont pas chers. Puis, on va passer 2-3 mois dans le sud de la France. C'est le fun. J'avais encore la couche aux fesses pour parler avec cette expression-là. Tu sais, j'étais encore bien, bien jeune. Fait que je suis parti avec lui, mais... quand on est arrivé en France, on s'est séparés. Moi, je faisais du pouce pour aller dans le sud. On est arrivé par l'Angleterre, puis on traversait dans un hovercraft entre Dover et Calais. Douvres, en français, et Calais. Fait qu'on est quand même dans le nord de la France, je débarque là. Jeff, il me dit, je pense que ça serait mieux qu'on se sépare. Ça va aller plus vite, ça va aller plus facile pour faire du pouce. Puis, il me serre la main, bonne chance, bon voyage, on se revoit à Nîmes, tu sais. Fait que, anyway, c'est là. Qui a vu le film Les Ch'tis? Hein? Les Ch'tis? Ben, j'étais chez Les Ch'tis. Puis, croyez-le ou non, le premier livre que j'ai eu, c'était un gars de la poste. Puis, il m'a emmené dormir chez eux. Ça me faisait penser au film, tu sais, la mère là, qui se mêle de tout, puis qui cuisine, puis vous allez manger ça, et puis voilà, et puis vous avez vidé votre assiette, hein? Puis moi, je parlais, il me comprenait pas. Vous avez un drôle d'accent, vous. En tout cas, c'est une belle expérience, c'était un beau voyage. Puis finalement, j'ai fait du pouce le lendemain, je me suis rendu jusqu'à dans le sud de la France, puis je témoignais aux gens, puis c'était incroyable comment j'avais une efficacité. Il y en avait un qui avait arrêté son char sur le bord du chemin, puis il dit, il faut qu'on prie ensemble. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent, vous autres, là, mais pas moi. Hein? Mais je ne savais pas grand-chose des Écritures. Je ne savais pas grand-chose de la théologie, puis mais j'étais un témoin, je brillais, je reflétais le Seigneur, je ne sais pas, c'était suffisant pour être un témoin. Est-ce que j'étais un disciple? Moi, je pense que oui. Mais j'étais peut-être pas utilisable à toutes les situations. Le Seigneur m'avait utilisé dans cette situation-là. J'avais encore des croûtes à manger. Fait que une année plus tard, j'étais inscrit au cours biblique et puis on étudie l'éthique de Bonhoeffer. Qui connaît l'éthique de Bonhoeffer? Hein? L'éthique de Bonhoeffer, Bonhoeffer. C'est un Allemand qui a été tué sous le régime nazi en 1945. Je pense à un mois ou quelque chose quand, de la libération. Écoute, les Alliés s'en venaient. Ils l'ont pendu parce que ils savaient que tout était perdu, mais ils l'ont pendu pareil parce qu'ils voulaient juste avoir le dernier mot. Bonhoeffer, c'était un théologien, un pasteur qui s'opposait au régime nazi. Et il a écrit un livre sur l'éthique, sur des questions qui sont difficiles à débattre. Par exemple, un chrétien peut-il participer à la guerre? Un chrétien peut-il mentir? T'sais? C'est sûr que tout de suite, on va répondre à brûle pour point, un chrétien, ça ne ment pas. T'sais? Puis lui, il dit, OK, supposons que vous êtes sous le régime nazi, les Juifs sont envoyés au camp de concentration, puis c'est entendu qu'ils vont mourir, les familles sont séparées, puis c'est une injustice totale. Vous décidez de cacher les Juifs chez vous. La Gestapo frappe à la porte et puis il cherche des Juifs. Puis il pose la question, est-ce que vous avez des Juifs chez vous? Un bon chrétien, ça ne ment pas. Qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on ne ment pas, on va dire, ben oui, j'en ai même deux douzaines en bas. Alors, il nous exposait des situations on poussait notre raisonnement un petit peu plus loin. Il est arrivé, il parlait d'un sujet sur le bien fondé du bien de l'homme. De nos motifs. T'sais. Et comme je vous disais tantôt, l'être humain naturel est capable, il connaît le bien et le mal. Malheureusement, il ne possède pas l'essence d'être bon, ce qui est un gros handicap. T'sais. Alors, Bonhoeffer nous exposait que le bien, le fondement du bien qu'on fait est toujours mal. Il y a toujours comme une idée derrière toute action qui nous est bénéfique, avantageuse. En tout cas, c'est la première fois que j'entendais une affaire de même. J'étais là, choqué dans le sens d'un choc, pas fâché, mais j'étais renversé parce que je venais d'entendre, puis en même temps extrêmement découragé. Je me disais, toutes ces années-là, à donner un effort, puis à essayer d'être un bon chrétien, en tout cas, ça ne servait à rien. C'était inutile. Puis j'étais tellement là, sur le coup là, de cette révélation-là, que pour moi, c'était clair. Je me levais, je m'en allais, puis l'église, c'était fini. De toute façon, ça ne servait à rien. Bonhoeffer avait exposé tellement clairement que le bien, ce n'est pas quelque chose qui appartient à l'être humain. Puis, comme je vous dis, j'étais comme à bout. Là. J'étais rendu découragé. Je dis, moi, je sors, puis c'est fini l'église. Je m'en retourne voir mes amis, puis on continue à faire de la musique. Puis, jusqu'à ce que, je pense que c'est la bonté de Dieu, évidemment, le Saint-Esprit me rappelle la grâce. Voici pourquoi la grâce de Dieu. Voici pourquoi un chrétien, ça marche dans la grâce. Récemment, il y avait une émission qu'on écoutait le dimanche soir. Vous savez, ici, tout le monde en parle. En France, il y a une émission un peu pareille, là, je ne me souviens pas comment ça s'appelle, là, puis il y a plein d'invités, c'est le même concept. Puis il y a un philosophe qui est venu parler, et il parlait de la condition du Moyen-Orient, il parlait de l'islam, le bon islam, le mauvais islam, et puis tout ça. Fait que c'est un ouvrage, c'est un philosophe, il y a beaucoup d'autres qualités, ce bonhomme-là, puis il écrivait sur la politique et tout ça. T'sais. Alors là, il était intelligent, son livre, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a posé l'argument, elle dit, oui, mais les Alliés, les Américains, durant la Deuxième Guerre mondiale, quand ils sont venus sauver l'Europe, comme on dit, leur vrai motif, c'était pas de sauver l'Europe. Leur vrai motif, c'était mercantile. Ils savaient qu'il y avait un bon deal à faire là, puis qu'ils s'enrichiraient, et puis les motifs n'étaient pas propres. Puis il a répondu, puis ma femme m'a donné un coup de coude, elle dit, écoute sa réponse. C'est comme nous, les chrétiens, tu sais. Le bien fondé du motif. Et là, il répond, il dit, peu importe. Quand même que leur motif était comme ci ou comme ça, ils ont néanmoins débarrassé l'Europe des nazis, puis ils ont libéré des Juifs qui étaient dans un camp de concentration, puis pas rien que les Juifs, puis tous les autres qui étaient sous d'un prison, puis tout ça, puis l'injustice. Néanmoins, ils ont quand même fait ça, tu sais. Il dit, peu importe les motifs, ça me donne un coup de coude, elle dit, c'est comme nous, ça. T'sais. Souvent, nous autres, les chrétiens, on va être très, très sévères les uns envers les autres à cause qu'on va dire, oh, il a fait telle chose, mais dans le fond, ses motifs, c'était que, tu sais, mais peu importe les motifs. C'est ça, la grâce de Dieu. Il nous prend comme on est, un peu, ou tout croche, puis il fait quelque chose avec nous autres, tranquillement, tu sais. Puis les motifs sont un peu, puis on a toutes sortes d'idées dans la tête, puis toutes sortes d'intentions, mais au fond, l'Évangile est prêché, la vérité est exposée. Et en tout cas, ce soir-là, c'était une conversion pour moi. Je me suis converti avec Jeff, avec une prière. Ensuite, c'est comme si je me suis converti avec cette révélation de la grâce de Dieu. Puis plus tard, il m'est arrivé une autre situation épouvantable où je me suis converti à nouveau. Fait que peut-être que c'est comme ça, vous autres aussi. Peut-être que votre vie est ponctuée de conversion. Puis c'est beau de même. Puis c'est encourageant parce que on se disqualifie parce qu'on est imparfait, puis on s'évalue sévèrement, puis voilà. Mais on s'expose à la parole, puis la parole fait son ouvrage. Et comme disait Patrice dans son introduction tantôt, il disait les œuvres du Saint-Esprit, il y en a cinq qui se font automatiquement au moment de la conversion. Le sixième, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Puis celui-là, il répond à des conditions. Bien, c'est édifiant, ça. C'est ça que je veux communiquer. C'est que ça répond à des conditions, tranquillement, une croissance. Puis ça vient tranquillement. Puis un jour, on comprend quelque chose, puis bam, on est renversé, puis... j'ai été malade. J'étais très malade. Et je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. C'est long. Mais j'étais malade, mais pas malade physiquement. J'étais malade dans ma tête. T'sais, j'ai comme si une crise de schizophrénie. En tout cas, quelque chose qui m'a pris par surprise. Puis, je ne savais pas ce que c'était. Puis je me suis mis à paniquer. Et puis... J'étais en pleine nuit, je me suis réveillé pendant la nuit, j'étais en train de exploser dans ma tête. Là. Une crise de folie, une angoisse, une anxiété profonde. Et puis je descends dans le salon et je me mets à prier. Non, c'est pas ça que j'ai fait. Je suis descendu dans le salon, j'ai ouvert ma Bible. J'ai dit, ça va me rassurer, ça va me calmer les nerfs un peu. Tu sais. Puis j'ouvre ma Bible dans Proverbe. Mon fils, si tu veux acquérir la sagesse, il donne des conseils à long terme. Tu sais. Moi, j'ai besoin d'une parole vite, vite, tout de suite. Il faut que ça soit là, maintenant, là, parce que je suis en train de péter aux frettes. Là, c'est pas compliqué. Fait que là, je tourne dans le Nouveau Testament. Je dis, c'est plus expéditif que le Nouveau Testament. Ça va sûrement faire du bien. Je tombe dans le semeur. Un semeur sorti pour semer. Puis, il y a encore un processus qui est là, mais j'avais besoin d'une réponse vite. Là, je ferme la Bible. Je dis, ça se peut pas. Ça me prend un remède. Comme une injection tout de suite. Là. Ça ne me prend pas quelque chose, un traitement, là, un jeûne qui va prendre. Là, je me mets à prier. Puis, Seigneur, là, j'ai été insistant un peu. J'ai été très insistant envers Dieu. Merci pour sa grâce. Merci pour sa bonté. Seigneur, me calmer tout de suite, sur le coup. Là. Je ne vous raconte pas le détail. C'est pas si important que ça. Mais ce qui est arrivé, c'est que je peux distinctement dire que le Seigneur m'avait calmé sur le coup, mais pas guéri. Curieusement, puis c'est ça le point que j'aimerais amener, là, c'est qu'il ne m'a pas guéri, il m'a calmé, puis il m'a mis dans sa présence. Puis le lendemain, quand je me suis levé, il y avait comme moi splitté en deux. Je n'étais pas en parfaite santé mentale. Là. J'avais moi, on dirait que j'avais un autre moi, qui était au-dessus, j'étais déchiré dans mon être. Je me disais, je suis fou, carré. Je suis rendu malade mental, là. J'ai un problème mental, là. Il va falloir que j'aille consulter. Puis j'avais peur des psychologues, des instituts psychiatriques. Je me voyais vraiment, là, tu sais, j'étais là. Je n'osais même pas en parler avec ma femme, je ne savais pas de quelle manière y en parler. Sans l'effrayer. J'avais peur de l'effrayer. Et puis, un moment donné, on était chez IGA, puis il y avait la radio qui jouait, puis il y avait une chanson de Gilbert Bécaud. Je ne sais pas c'est quoi le titre de cette chanson-là, mais je me rappelle des paroles qui disent « J'avais devant moi un homme heureux. J'avais devant moi un homme heureux. » J'écoutais ça, puis je me disais, est-ce que cette condition peut encore être accessible pour moi? Est-ce que je suis fini, tu sais? Ou est-ce, quand, admettons que, je ne sais pas moi, vous êtes blessé, vous avez mal au dos, tu sais, puis vous dites, regarde les gens qui ont pas mal au dos, qui dansent autour de moi, est-ce qu'un jour je vais pouvoir, tu sais, c'est bête à dire, là, mais t'en es rendu à se demander si un jour on va pouvoir être débarrassé. J'étais à ma tête, j'étais convaincu que j'étais coincé de même à vie, tu sais. Puis ça amplifiait l'anxiété, tu sais. Mais j'étais débarrassé de cette anxiété dramatique. Je ne sais pas qui d'entre vous a déjà connu un épisode d'anxiété ou d'angoisse. Hein. C'est quelque chose d'effrayant, effrayant. Et puis, j'étais épuisé. J'allais à l'école dans ce temps-là. Je prenais des cours aux adultes. Je finissais ma journée, j'étais épuisé. Je dormais partout. Je me couchais, je dormais tout de suite. Puis un bon jour, 3-4 jours après, j'étais couché sur le sofa, dans le salon. Et puis, tout d'un coup, je sens la présence de Dieu. Ça fait un peu mystique, là, mais c'est vrai. J'ai senti comme la présence de Dieu, bienfaisante. Puis, le Seigneur, c'est comme s'il me montrait quelque chose. Il me disait, rappelle-toi l'homme à la main sèche. Rappelle-toi l'aveugle. Rappelle-toi tous les malades que s'il montrait, tu ne penses pas que je peux faire la même chose avec toi? Si je veux, tu ne penses pas que la guérison m'appartient et que je pourrais tout de suite te donner la guérison? Sure, tu sais. J'ai comme senti quelque chose qui a passé à travers moi, qui m'a fait un grand bien. Mais là, je vais vous décevoir. Parce que là, vous dites, il va nous dire qu'il a été guéri sur le champ. Le Seigneur me dit, regarde à moi, puis tu n'auras jamais de problème. Puis je ne sais pas si ça fait du sens pour vous, mais je reviens au principe de la liberté. Le Seigneur, c'est la vie. Puis nous, ce qu'on veut souvent, c'est l'autonomie. Guéris-moi pour que je n'aie plus besoin de toi. Le Seigneur me dit, je vais montrer une voie par excellence, la voie de la vie. Regarde à moi, puis tu vas vivre. Puis, il y a des gens, j'ai raconté mon témoignage à quelques reprises, il y a des gens venaient me voir, puis je ne comprends pas, t'as-tu été guéri ou t'as pas été guéri? C'est une question qui est... Oui, je pense que oui, mais le point n'est pas là. De toute façon, on va tous mourir un jour. Quand même que le Seigneur nous guérit, notre corps va connaître la fin, tu sais. Fait que la guérison, elle est relative, mais la vie en Jésus n'est pas relative. Fait que c'est ça qui me montrait, Seigneur. Puis c'est ça que j'aimerais qu'on soit édifié avec, le principe, tu sais, voyez-vous la différence entre la liberté en Jésus-Christ et la fausse liberté que le serpent nous proposait dans le jardin. Fait que je vais terminer comme ça, simplement, avec mes trois histoires là, que je vous racontais. Et pour s'en revenir à être un disciple. Le pasteur à l'église nous parlait d'un principe tout simple autrefois qui était assez édifiant. Il parlait de la lune qui brille la nuit. Elle éclaire fort. Mais la lune, vous savez qu'elle n'a aucune propriété en elle pour briller. Elle n'a aucune énergie. Elle n'émane pas une énergie qui émet de la lumière. La lune, elle a juste une qualité, c'est de refléter. Le soleil émet la lumière. La lune reflète la lumière. Puis je crois qu'elle reflète 7% de la lumière solaire. Puis la Terre reflète aussi. Hein? La Terre reflète combien? Je pense qu'elle reflète près de 20% à cause de l'eau, à cause des nuages, puis de l'humidité, puis tout ça. On l'appelle le albido. Ça vous dit quelque chose, albido? Pensez que vous connaissiez la musique. Evangeliste, ça vous dit quelque chose? Le musicien évangéliste grec. Il avait fait un album, Albido. Albido, c'est le reflet de la terre quand le soleil frappe dessus. Maximum albido, en tout cas. Je me rappelle, quand le pasteur a parlé de ça, je dis, ah ouais, Evangeliste, on écoutait ça quand on était jeune. Mais la lune, pour en revenir à la lune, elle n'a pas des propriétés pour briller. Et elle brille, pourtant, elle nous éclaire la nuit. Fait qu'imaginez que c'est les mêmes propriétés que vous avez besoin pour resplendir. Tu sais, quand j'étais dans le sud de la France, là, j'avais pas beaucoup de matière théologique en moi. Puis pourtant, ma face devait probablement refléter la bonté de Dieu. Tu sais. Fait que c'est pour vous édifier. Tu sais, dans le fond, c'est peu. C'est peu ce qu'on a à faire. Puis c'est grand ce qui peut être fait par le Seigneur. Aimez-vous ça? Amen.
On va faire, peut-être des gens auraient des questions, puis tu pourrais agrémenter avec des commentaires. Qu'est-ce que c'est venu vous chercher? Qu'est-ce qui vous a touché dans le message aujourd'hui? On a la chance de pouvoir interagir avec lui, puis de pouvoir lui dire aussi, hey, ça m'édifie. Ma grâce te suffit. Excellent. Tu veux-tu aller plus loin?
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et beaucoup plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.